Alors, comme l'a dit Jean-Pierre, on continue notre parcours dans l'Épître aux Hébreux et on arrive sur la fin de ce parcours. Ça a été un beau parcours dans cette belle Épître, un parcours parfois difficile pour comprendre certaines choses. J'espère que l'équipe de prédicateurs a su éclairer certaines choses, mais vous n'aurez pas assez de toute votre vie pour bien saisir et aller cueillir toutes les pépites qu'il y a dans cette épître et dans toute la Bible. Et c'est ça qui est merveilleux. J'ai le souvenir de quelqu'un qui m'avait raconté que, je crois que c'est Monsieur Kuhn, son prénom m'échappe, Alfred Kuhn. On lui avait demandé, mais pourquoi tu continues à aller aux études bibliques? Parce qu'en fait, les gens qui font les études bibliques, ils connaissent moins bien la Bible que toi. Donc, quel est l'intérêt? Et il disait, en fait, je continuais à y aller parce que les personnes qui ont préparé l'étude biblique ont reçu quelque chose du Seigneur par rapport au texte. Et c'est quelque chose que moi, je n'ai pas reçu à ce moment-là. Et j'ai toujours quelque chose à tirer d'une étude biblique que quelqu'un fait, évidemment, de moins compétent, entre guillemets. Mais l'Esprit de Dieu est là. Et je prie qu'il me dirige et qu'il parle à vos cœurs ce matin. Donc, marcher, le regard tourné vers le but, c'est le titre que j'ai donné à cette prédication. Et c'est vrai que durant tout le livre, donc toute cette épître, on a vu, l'auteur a voulu démontrer combien la nouvelle alliance par le sacrifice de Jésus à la croix était supérieure à l'ancienne. Hein, on a vu que le sacrifice de Jésus est suffisant, il est efficace pour le pardon de nos péchés. Qu'on peut s'approcher de Dieu sans crainte parce que sa grâce couvre nos péchés. On a vu que Jésus nous a fait entrer dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu, et que du coup, à cause de cette réalité, on est appelé à vivre selon cette réalité-là. Et dans le chapitre précédent, eh bien, l'auteur, on sent qu'il est en train de conclure sa lettre. Il commence à donner quelques indications générales sur la façon de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et il va inviter à rejeter le péché, à suivre l'exemple de Christ avec persévérance, un mot que vous allez beaucoup entendre ce matin. Christ a subi le rejet et le mépris, mais il l'a supporté. Donc, il faut pas se décourager. Il invite également à supporter bien le châtiment de Dieu hein, qui nous reprend parfois comme un père reprend son enfant. Et que ça, le fait que Dieu nous reprenne, c'est un signe qu'on est enfant de Dieu. Et c'est aussi par là qu'on porte du fruit. Et enfin, toujours dans le chapitre précédent, il appelle à la sanctification, à pas se laisser infecter par le péché. Parce que auparavant, s'approcher de Dieu, ça, c'était synonyme de mort imminente, enfin, tout de suite. Mais aujourd'hui, on a accès à lui. Et donc, l'auteur invite à ne pas refuser d'écouter Dieu et à lui rendre un culte de reconnaissance qui lui soit agréable. Et dans toute cette épître, eh bien, on a cette idée de persévérance. On rappelle le contexte de Juifs qui sont nouvellement convertis au christianisme et qui ont cette tentation, peut-être de retourner au judaïsme ou de ne pas faire de Christ leur seul sauveur. Et c'est marrant parce que je réfléchissais à cette idée de persévérance et je disais, pour les mauvaises choses, on n'a pas besoin d'être persévérant. Pour me mettre en colère, je n'ai pas besoin de travailler, d'être persévérant. Ça me fait penser à ce sketch de Gad Elmaleh, c'est un de ses premiers spectacles où il disait, j'ai enfin réussi à commencer à fumer. Et il déroule tout son sketch avec les arguments tout ce qu'il faut faire pour arrêter de fumer, mais lui, pour avoir commencé à fumer, c'est complètement absurde, c'est ça qui est rigolo. Mais, et oui, pour les mauvaises choses, on n'a pas besoin de persévérer. La persévérance, souvent, elle est nécessaire pour atteindre un but, quand on veut atteindre un but. Dans des études, on a besoin d'être persévérant, de tenir bon pour pouvoir aller au bout de ses études et obtenir son diplôme. Quand on fait des travaux chez soi, si on rénove une pièce, si on rénove une maison, eh ben, c'est long, c'est fastidieux, et on a besoin d'être persévérant, de ne pas lâcher, parce que sinon, on n'atteint pas son but. Pour l'apprentissage d'un savoir-faire, d'un instrument de musique, ça prend de nombreuses années, et parfois, c'est très ingrat, il faut être persévérant. Et donc, dans cette première partie du chapitre 13, donc j'ai pas mis, mais c'est chapitre 13, versets 1 à 17, l'auteur va donner quelques recommandation, mise en garde pour persévérer justement dans, dans cette marche chrétienne et rester attaché à Christ dans le vue d'un but qui est celui de la vie éternelle, de la vie avec Dieu. Et donc, on va durant cette prédication, aborder deux parties. La première, persévérer dans notre marche chrétienne. Et deuxième partie, en restant fidèle à Christ. Donc, tout d'abord, persévérer dans notre marche chrétienne. On va commencer à lire le texte. Donc, c'est au chapitre 13. On va lire les versets 1 à 3. Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Alors, voilà, ça commence avec ce mot persévérer, et la première chose, et on va voir que l'auteur aborde trois choses, il aborde l'amour, l'hospitalité et le souvenir des prisonniers. Alors l'amour, c'est une vaste question. C'est à la fois simple et compliqué, l'amour. Quand on parle d'amour, peut-être, dans le monde, enfin, je parle de façon générale, on peut penser à l'amour, le coup de foudre. On peut penser aussi à cet idéal humaniste d'amour. On peut penser au romantisme. Au film hollywoodien où il y a l'amour parfait. L'appel à aimer dans le Nouveau Testament, ça fait partie des choses qu'on retrouve le plus souvent. Et dans ses épîtres, Paul va tantôt saluer l'amour présent chez les Colossiens et tantôt prier pour que les Philippiens augmentent leur amour. Et évidemment, Jésus parle énormément d'amour. Et quand on lui demande quel est le plus grand commandement de la loi, il répond « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et là, on voit toute l'importance à donner à l'amour dans notre vie. Encore une fois, ce n'est pas si simple et ça demande de la persévérance. Et là, il nous est parlé en particulier de l'amour fraternel entre frères et sœurs. Et on en revient à cette problématique du contexte de l'époque, de la persécution, où on a besoin du soutien des frères et sœurs pour rester attachés à Christ. Et il est là le but de la persévérance dans quasiment toute l'épître, c'est de rester attaché à Christ et à Christ seul. Alors finalement, qu'est-ce qu'aimer ? Aimer, je dirais que c'est un acte de volonté plus qu'une émotion. Évidemment, c'est agréable quand l'amour va de soi, quand c'est naturel, quand c'est facile. Mais aimer, c'est aussi un travail et parfois même un combat. On peut difficilement contrôler ses émotions, mais on peut décider d'agir avec amour. J'aime non pas parce que je le ressens, mais parce que je prends la décision d'aimer. Et je pense que dans nos relations, c'est important de garder ça à l'esprit, pas dire ah bah juste mes émotions ne vont pas dans le sens de l'amour donc je n'arrive pas à aimer. Et parfois c'est peut-être comme ça qu'on réagit, mais n'oublions pas que aimer c'est un acte et on peut décider d'aimer et demander à Dieu de nous y aider évidemment dans notre vie de tous les jours avec notre famille hein, en premier lieu hein. C'est là que l'amour on le travaille le plus à l'abri des regards. Là où ça ne se voit pas. Et c'est là que Dieu nous challenge aussi. Et puis entre nous, entre frères et sœurs, n'oublions pas qu'aimer, c'est un acte. Ensuite, l'auteur continue avec l'hospitalité, qui était une notion très importante dans l'Antiquité. Là, l'idée, c'est à destination de gens qu'on connaît pas forcément, qu'on connaît pas forcément bien, mais aussi à destination des frères et sœurs. Et finalement, on va voir que ce soit pour l'hospitalité et pour le souvenir des prisonniers, finalement, c'est des mises en pratique de l'amour et de la persévérance dans l'amour. L'hospitalité, c'est probablement une des choses avec laquelle, peut-être dans notre société occidentale, on a le plus de mal. C'est probablement beaucoup plus clair pour des gens de plein d'autres pays dans le monde, cette question de l'hospitalité. Pour nous, c'est un peu plus compliqué. Dans notre société occidentale, la maison, le foyer, c'est quelque chose de très intime, très fermé, très protégé. Mais l'auteur nous invite et nous demande de ne pas oublier l'hospitalité. Paul, dans l'Épître aux Romains, va même dire « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement ». Alors, dans le contexte, encore une fois, de l'époque, l'hospitalité était importante à deux niveaux. Dans un contexte de persécution, où des frères et sœurs avaient tout perdu, ils avaient perdu tous leurs biens, ils se retrouvaient sans rien, spoliés, parce qu'ils avaient placé leur foi en Christ et ils avaient besoin du soutien des frères et sœurs pour pouvoir avoir un toit. Mais il y avait aussi la nécessité d'accueillir des missionnaires et des enseignants. Alors, comment vive l'hospitalité aujourd'hui ? Évidemment, on vit l'hospitalité entre nous, on s'invite le dimanche pour un repas. Parfois plus, je sais, dans notre assemblée, il y a des gens qui ont accueilli des personnes pendant de longues périodes, des personnes qui en avaient besoin, et je suis vraiment admiratif. Et c'est vraiment un exemple pour moi de voir ces gens qui ouvrent leur maison de cette façon. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion chacun à avoir sur comment on peut être accueillant, pas seulement entre nous, parce qu'on, bon, on va dire, on s'aime bien quand même, nous. On aime bien savoir les uns les autres chez nous. Mais peut-être d'ouvrir nos maisons à des gens, des collègues de travail, des connaissances, de vraiment pouvoir manifester notre amour en étant hospitalier, en faisant venir des gens chez nous. Je sais que dans l'Église, il y a des gens, pour eux, c'est hyper naturel. Et sans doute, il y en a d'autres, c'est plus difficile. Mais ayons ça à l'esprit, que c'est une manifestation de l'amour en Jésus-Christ, l'hospitalité, et que c'est un témoignage aussi de ce que Christ a fait pour nous. Soyons prêts à ouvrir nos maisons. Et enfin, dans cette première partie, il finit avec ceux qui sont maltraités. Donc par extension, c'est encore une pratique de l'amour. Il y avait vraiment cette idée de corps. Hein. 1 Corinthiens 12, 26, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Et donc il y a encore une fois un lien fort avec la persécution. On l'avait déjà vu ça dans le chapitre 10, où il est fait mention de ne pas abandonner l'espérance en Jésus-Christ, de ne pas abandonner son assemblée, de persévérer. Parce qu'il y a des hommes de foi à ce moment-là qui sont tués à cause de leur foi. Et il y a vraiment une nécessité de soutenir ceux qui sont dans l'épreuve, notamment dans la persécution. Alors, j'ai envie de dire deux choses par rapport à ça. C'est vrai que nous, on a la grâce de vivre dans un pays où nous ne sommes pas persécutés. Mais ça ne nous empêche pas de ne pas oublier nos frères et sœurs qui le sont dans le monde. Et il y a plusieurs moyens de les soutenir. Évidemment, dans la prière, c'est très important. On peut avoir des dons financiers aussi. On peut se dire, je réserve une partie de mes dons du mois pour l'Église persécutée, peut-être pour des situations particulières que je connais. On peut aussi se mettre en lien avec des sociétés missionnaires qui peuvent organiser des voyages où on peut servir sur notre temps libre. Mais j'ai envie aussi de dire que ne nous croyons pas à l'abri de la persécution. On vit dans une société qui rejette de plus en plus l'idée de foi, où on veut laisser de moins de place à la foi. Ça crée beaucoup de tensions dans notre société. Je ne sais pas, j'espère pas que ça va aller dans ce sens-là, mais sachons aussi nous préparer à cela et nous mettre devant Dieu par rapport à cette idée de persécution. Et je pense que c'est important d'y réfléchir et de dire, est-ce que vraiment je suis prêt à vivre la persécution pour Jésus-Christ ? Et dans ce cas-là, il faudra être prêt à être là les uns pour les autres. Et ça sera indispensable pour pouvoir toujours avoir ce but en tête, rester attaché à Christ. Alors je continue, on pourrait développer le texte, il y a beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que je ne vais pas être trop long déjà. Donc on continue avec les versets suivants. Et là, il va plus mettre en garde. Là, on avait plutôt des incitations à agir d'une certaine façon. Et dans, toujours dans cette idée hein, de marcher, de nos marches chrétiennes, il va donner quelques mises en garde. Je continue. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Donc, je le redis, dans toute l'épître, l'auteur n'a eu de cesse de enjoindre ses lecteurs à rester attachés à Christ et à se détacher des anciens rites pour vivre pleinement la grâce et l'espérance en Jésus-Christ. Parce qu'en fait, tout ce qui remplace Christ, en fait, c'est une idolâtrie. Et donc, l'auteur continue avec ces deux mises en garde, ces deux conseils concernant le mariage, et donc par extension la vie sexuelle, et le rapport à l'argent. Et dans ces deux domaines, il nous appelle à la sainteté. On replace encore dans le contexte, c'est important. Hein. Les personnes à qui l'auteur écrit vivent peut-être dans des villes romaines où il est commun d'avoir des hommes qui ont une femme et des maîtresses et où la prostitution culturelle et l'homosexualité faisaient partie de la culture. Et c'était vraiment quelque chose de tout à fait normal. Hein. Quand vous étudiez ces époques-là, c'est quelque chose qui fait partie même de la philosophie. Et dans le cadre de la nouvelle alliance qui a été inaugurée, hein, on a parlé de cette nouvelle alliance avec Jésus, le mariage, en fait, c'est une image aussi de l'alliance entre Dieu et son peuple. La fidélité, c'est un attribut de Dieu, notamment dans sa relation avec son peuple. Du coup, c'est complètement logique que de la même façon, c'est une caractéristique fondamentale de la relation dans le couple. Donc bon, je vous apprends rien, hein, ça paraît assez logique. Quand il parle d'immoralité sexuelle, on est probablement plus dans le cadre d'une sexualité avant le mariage. La nouvelle naissance, quand on place sa confiance en Jésus-Christ, doit y avoir des fruits visibles, et y compris dans le mariage. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il parle d'immoralité sexuelle, donc l'idée de se préserver avant le mariage, c'est aussi une façon d'honorer le mariage. Si vous êtes célibataire, de vous préserver, de garder la sexualité pour le cadre du mariage, c'est une façon à vous d'honorer Dieu et d'honorer le mariage. Et finalement, c'est beau de voir que le mariage est un moyen donné par Dieu pour tenir bon dans la foi. Parce qu'on se rappelle, hein, le but, rester attaché à Christ. Autant ne pas honorer le mariage, eh bien, c'est un piège qui peut nous éloigner de la foi. Autant se battre pour avoir un mariage plein d'amour, sain et solide, bah, c'est une manière aussi de tenir dans la foi. Le mariage, c'est un don de Dieu au service de notre relation avec lui également. Ensuite, il parle de l'argent. Et pour l'argent, il me semble qu'il est question de deux choses. C'est en quoi je place ou en qui je place ma confiance. Et puis, finalement, qui est mon Dieu. Si on regarde tout ce qui a été dit auparavant dans l'Épître, ces recommandations sont des recommandations qui nous appellent à faire de Christ le seul sauveur et puis le seul sur qui on place notre confiance. Tout ce qui remplace Christ, je l'ai dit, c'est de l'idolâtrie. Et ça va encore avec cette idée de persévérance dans la foi. Ces deux recommandations sont un appel à ne pas se détourner de Christ. Concernant l'argent, Paul rappelle dans 1 Timothée 6,10 que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Au chapitre 10, il est question des biens, mais de la joie de perdre ses biens en vue de l'attente de richesses meilleures au ciel. On a toujours cette idée de but hein, à atteindre. Là, il évoque plutôt le contraire, c'est-à-dire la peur de perdre ses biens, ce qui pourrait mener à une conduite infidèle et même à l'apostasie, c'est-à-dire le fait de renier Christ. L'amour de l'argent, ça peut aussi, dans le contexte, mener à délaisser ses frères et sœurs qui auraient besoin de soutien, à ne plus faire preuve d'hospitalité à ne plus prendre soin des prisonniers. Et on voit que c'est une mise en garde aussi par rapport à ce qui nous a été demandé ou ce qui demande juste avant dans l'épître, dans le chapitre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne deux remèdes dans le texte. Tout d'abord, se contenter de ce qu'on a. C'est facile à dire, mais combien de fois on se dit oh, « si j'avais une autre voiture, ça serait quand même mieux. Si j'avais une maison plus grande, ce serait quand même beaucoup plus facile. Si j'avais ceci, cela, je vous laisse remplir les trous. » La Bible nous dit dans plein de passages que Dieu est bon et qu'il prend soin de nous, qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Il y a eu des prières dans ce sens ce matin. Alors, croyons-le vraiment et détournons notre esprit des pensées qui peuvent nous mettre dans la tête qu'il nous manque des choses. Et ensuite, les promesses de Dieu. Je ne t'abandonnerai point, c'est une promesse qui est faite à Josué et qui est reprise ici pour le peuple de la Nouvelle Alliance. Et le Seigneur est mon secours, c'est tiré d'un psaume duquel le contexte est que quelqu'un est attaqué. Nous n'avons pas à craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Et en fait, vous allez voir que en continuant le texte, on va voir que l'idée, c'est d'avoir dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cœur, des pensées qui soient tournées vers l'éternité et pas tournées vers ici-bas, quoi, la terre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de choses. Ça ne veut pas dire que parfois on peut manquer de certaines choses. Mais nous devons faire confiance à Dieu et on est appelé à être solidaires, à nous aimer les uns les autres, à prendre soin les uns des autres. Donc ici, on a deux choses qui peuvent remplacer communément Dieu, l'argent et finalement les plaisirs sexuels. Ce sont des mirages, des appâts luminescents qui nous font regarder ailleurs, justement, qu'à Christ et donc à l'éternité, en nous promettant une satisfaction immédiate. Voilà pour ces deux recommandations par rapport à l'amour, l'hospitalité, se souvenir des prisonniers, et la sainteté dans le mariage et dans le rapport à l'argent. Et donc notre texte continue avec une deuxième partie, par rapport à rester fidèle à Christ. Hein. Cette marche chrétienne nous permet de rester fidèle à Christ. Et on va continuer à lire. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serez d'aucun avantage. Donc, cette nouvelle section commence par un appel à se souvenir de ses conducteurs et à prendre exemple sur leur vie. Et je vais faire un saut. Je vais directement aller au verset 17 qui dit, on l'a lu, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. » En fait, ce qui est intéressant c'est de voir que la suite du verset 7, donc se souvenir de ses conducteurs, est encadrée par cette recommandation. Donc on a toute la partie sur le tabernacle, etc., qui est encadrée par d'abord « souvenez-vous de vos conducteurs » et ça finit par « obéissez à vos conducteurs ». Et en général, quand il y a un encadrement comme ça dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui va être dit. En fait, ce qui est au centre de cet encadrement et qu'on va voir après, nous montre pourquoi nous devons respecter nos conducteurs. Une nouvelle fois, il y a un appel à persévérer dans la foi en prenant exemple sur des personnes qu'ils ont amenées à l'évangile. Conducteur, ici, dans le texte, ça a la même signification que pasteur, ancien, surveillant. C'est un appel à suivre leur exemple de vie, à prendre conscience aussi que pour certains, eh bien, la fin était la mort à cause de cette même foi. Importance de se souvenir, de ne pas oublier ce qui a été fait dans le passé. La parole de Dieu, elle est centrale dans cet épître. Et le souvenir, il doit se situer dans la fonction principale des conducteurs qui est d'annoncer la parole de Dieu, d'enseigner. Et la sagesse des anciens, eh bien, c'est un exemple de la mise en pratique de la foi. Ça concerne les anciens en fonction, mais je pense que ça concerne aussi les conducteurs qui ont cédé leur place. Et on a la grâce dans notre assemblée d'avoir plusieurs anciens, comme j'aime à le dire, des anciens qui ont servi, qui ont apporté. Et nous, déjà, nous-mêmes, en tant qu'anciens, c'est une grâce de pouvoir regarder à l'exemple de ceux qui nous sont précédés, qui nous ont précédés, de pouvoir leur parler, de pouvoir échanger avec eux sur certains sujets. Puis voilà, on les a vus vivre. Ça nous donne des indications sur comment nous exercer notre ministère. Et puis pour chacun d'entre nous, c'est un exemple que Dieu nous donne. Donc c'est un encouragement pour nous à suivre, d'où imiter leur foi. Alors pour les conducteurs, c'est une sacrée responsabilité. Hein. Je ne suis pas hyper à l'aise à l'idée de traiter ce point-là, mais voilà, c'est aussi un texte qui nous rappelle à nous, anciens, que nous avons cette responsabilité-là d'être un exemple pour l'Assemblée. Et puis, donc à la fin, je passe directement à la fin du passage que nous traitons ce matin, obéir à ses conducteurs et avoir de la déférence. Hein, la déférence, c'est un respect profond. La charge d'ancien, de conducteur, c'est une charge qui peut être difficile, qui peut être éprouvante, tout en sachant que, évidemment, nous ne sommes pas parfaits. Ça, je pense que vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et il est vraiment important que l'Assemblée ait du respect et de l'amour, j'ai envie de rajouter, pour ses conducteurs. De ne pas les remettre en cause, publiquement déjà, mais aussi de façon cachée, par de la médisance ou du commérage. Un conducteur qui porte pas sa charge d'ancien avec joie, eh bien, c'est terrible. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression de se battre les uns avec les autres. Et ça peut arriver de ne pas être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut, il faut être d'accord avec tout. On peut discuter, il faut pouvoir être capable de discuter avec amour, avec respect. Mais Dieu a décidé que l'Église avait besoin de conducteurs et il nous demande de leur obéir. Je pense que l'important, c'est d'avoir des conducteurs qui sont attachés à la parole de Dieu et qui l'enseignent avec vérité, sachant que le texte nous dit, il y a d'autres passages dans la Bible qui nous dit qu'on devra rendre des comptes. Et c'est une sacrée responsabilité. N'oublions pas que la perfection sera atteinte dans le paradis, et c'est le cas aussi, je vous l'annonce, de vos conducteurs. Alors, je vous demande votre indulgence, votre amour pour nous, pour qu'on puisse tous avancer ensemble. Et cette demande de se souvenir de ses conducteurs et de leur obéir, c'est aussi un moyen de rester attaché à Christ. On continue avec le deuxième point de cette partie qui est finalement le but final, c'est de suivre Christ. Il y a cette affirmation « Jésus est le même » qui sert de transition entre le verset 7, donc il y a « Souvenez-vous de vos conducteurs »,« Jésus est le même » et ensuite « Ne vous laissez pas détourner par des doctrines étrangères ». Et c'est important de savoir que le fait d'obéir à nos conducteurs, de ne pas se laisser détourner par des doctrines étrangères, c'est possible parce que Jésus est le même. Et le cœur chrétien, il semble pouvoir se détourner du contentement doctrinal comme il peut se détourner du contentement matrimonial ou financier. Et le verset 9 donne des indications qui donnent des idées des dangers qui guettent ces premiers chrétiens. C'est de vouloir ajouter quelque chose à la grâce. On peut le lire très fortement dans l'épître aux Galates, écrite par Paul, avec la question de la circoncision. Le devoir de respecter des règles quant aux aliments, et ça, c'est présent dans toutes les religions, et finalement, l'inefficacité de ces règles. Ça semble montrer que ces premiers chrétiens d'origine juive étaient influencés, encore très marqués, par le judaïsme. Ils avaient du mal à placer complètement leur confiance en Jésus-Christ. Et déjà, à l'époque, il y avait besoin de rappeler que Jésus reste le même. Est-ce que c'est que à l'époque ? Ça, c'est la question, parce que souvent, on parle de contexte par rapport à une époque qui est quand même lointaine, 2000 ans. Est-ce qu'on a besoin de se rappeler que Jésus est encore le même aujourd'hui ? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette petite musique. Il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec les connaissances actuelles. On ne peut pas prendre la Bible au pied de la lettre. C'est remplacé par les connaissances scientifiques. Il y a un nouvel ordre moral, un nouvel ordre social. Ce n'est pas nouveau. Et c'était déjà le cas pour les premiers chrétiens. Et je crois que c'est vraiment important de se rappeler qu'on peut être marqué par ça. Nous devons rester fidèles à la parole de Dieu et à Christ, sinon, finalement, on va se créer son propre évangile. Et en ce moment, je ne veux pas stigmatiser les Américains, désolé, mais en ce moment, il y a les politiques américains qui citent la Bible à tout va, mais pour leurs propres intérêts. Et ils créent finalement un nouvel évangile, des choses que Dieu n'a pas dites. Et quand j'ai fait mes études d'histoire à la fac, j'étais vraiment effaré par la façon dont, alors là on parle de l'Europe, je quitte les États-Unis, je vais en Europe et en France, enfin partout, partout où il y avait l'Église, la façon dont on utilisait les textes bibliques pour à des fins politiques, à des fins personnelles. Mais c'était terrible. On a déformé pendant des centaines d'années. Alors, je pense qu'il y avait des chrétiens véritables. Malheureusement, on n'en parle pas dans les textes d'histoire toujours. Mais voilà, on déformait les textes bibliques à des fins politiques et on faisait dire des choses terribles à Dieu qu'il n'avait pas dites. D'où vraiment c'est important d'être attaché à la parole de Dieu. Il y a l'idée que le respect des règles de la loi, de la loi de Moïse, concerne ceux qui veulent rester dans le camp. Il y a cette image du camp, c'est-à-dire du tabernacle ou du temple, et cette idée que on doit sortir de ce camp, sortir des règles qui étaient édictées auparavant parce qu'on est entré dans une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Parce que Christ a été mis à mort en dehors du camp. Et ça concerne ceux qui veulent rester dans le rang, en fait. À cette époque-là, sans doute qu'il y avait des juifs nouvellement chrétiens qui voulaient quand même pas trop faire de vagues, pas trop avoir de problèmes. Et on en revient à cette question de la persécution. Et pour nous-mêmes, je pense que la réflexion qu'on doit avoir par rapport à la persécution, même si on n'est pas directement touché pour l'instant, c'est aussi de se dire, est-ce que je suis prêt à tenir les positions que la parole de Dieu me dit concernant des sujets peut-être plus sensibles dans la société, parce que je veux rester fidèle à Christ, au risque de subir certaines choses. En tant que chrétien, nous sommes sortis du camp, nous sommes sortis d'une ancienne façon de fonctionner. L'auteur appelle à suivre l'exemple de Christ avec reconnaissance et fidélité. Je vais avancer un petit peu. Une des critiques que les Juifs faisaient aux chrétiens, c'est qu'ils n'avaient pas d'autel. Comment s'approcher de Dieu sans autel et sans sacrifice? Mais l'autel des chrétiens est meilleur, tout comme son sacrifice. Ils ont pour autel la croix et pour sacrifice celui de Jésus, qui est parfait, définitif et suffisant. Et à ce titre, tout comme les prêtres offraient des sacrifices dans le temple, nous sommes devenus des prêtres à part entière, capables d'offrir des sacrifices à Dieu. Un culte nouveau rendu possible par la médiation de Christ. Par une proclamation publique de Christ, mais aussi une mise en pratique par des actes d'amour. Dans le culte, dans ce culte, dans notre culte, il y a ces deux dimensions qui vont ensemble. Et enfin, ne pas oublier que notre vie sur terre n'est que passagère. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes en chemin vers l'éternité. Il y a toujours cette idée de persévérance vers le but. Et il finit avec l'importance de la reconnaissance et toujours de la générosité, le don qui revient. L'amour commençait dans notre texte et là, il reprend aussi la nécessité de l'amour. Je vais conclure simplement en rappelant que les recommandations de l'auteur à persévérer dans l'amour, l'hospitalité, le souvenir des prisonniers et les mises en garde vis-à-vis du mariage et de l'argent n'ont d'autre but que de nous permettre de rester fidèles à Christ. Toujours la même chose. Déjà pour nous-mêmes, mais aussi collectivement. Je crois que la notion collective de peuple est importante. Ne cherchons pas seulement à garder notre propre marche avec Christ, mais aussi à garder celle de nos frères et sœurs. J'aime mon frère ou ma sœur parce que ça me permet de rester attaché à Christ, mais aussi pour encourager mon frère ou ma sœur et lui permettre lui aussi de rester attaché à Christ. Les conducteurs ont le même but, nous devons enlever tout ce qui pourrait remplacer Christ et lui faire obstacle. Et là, ça demande de prendre un temps et de faire le bilan dans nos vies de tout ce qui peut faire obstacle. Et une fois, il y a une collègue, je crois que j'ai déjà raconté, désolé si ça fait une redite, mais une collègue qui savait que j'étais protestant, on discutait un peu, mais elle me dit, mais finalement, qu'est-ce que ça change pour toi d'être chrétien ? Et elle m'a un peu pris de court. Et la chose qui m'est venue comme ça, je lui ai dit, mais en fait, c'est une question d'éternité. Non, parce qu'elle me dit, est-ce que tu étais plus heureux en étant chrétien ? J'ai dit, mais en fait, c'est pas tellement ça la question. C'est une question d'éternité. Je pense que je suis plus heureux en tant que chrétien, mais quand vous demandez à des gens qui sont dans des pays où il y a une grosse persécution sur les chrétiens, ils vous disent que leur vie, elle est pire depuis qu'ils sont devenus chrétiens. Elle est pire. Mais par contre, c'est parce qu'eux, ils misent sur l'éternité. La marche chrétienne, c'est une marche vers un objectif, celui de l'éternité avec Dieu. Si mes pensées sont prises par la convoitise de l'argent ou des convoitises sexuelles, je regarde en fait dans une autre direction que Christ, et je risque de prendre un autre chemin que celui de l'éternité. Mais si je regarde à lui, je ne me laisserai pas détourner par quoi que ce soit. Je voudrais vraiment nous encourager à garder nos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire aussi chasser les pensées qui me disent « je manque de quelque chose, je devrais avoir plus de cela, je voudrais être plus dans le monde ». C'est des petites pensées, même quand on est un chrétien fidèle, qu'on peut avoir. Apprenons-les à les chasser pour regarder à Christ et marcher avec lui. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen.